Acte 22, on va lire les versets 1 à 21. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Mais que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il me dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tarderais-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent même ce que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Et je m'arrête ici. Alors pour commencer ce message, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 18. On va le relire. « Et je vis le Seigneur qui me dit, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. » parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Donc ça, c'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Et donc, Paul avait un témoignage. Et on peut se demander, mais quelle est la valeur d'un témoignage ? On donne notre témoignage. Quelle est la valeur d'un témoignage ? Mais on voit que le témoignage, avec la prédication, c'est le moyen que Dieu a choisi pour amener d'autres personnes à lui et sauver des personnes. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, donc juste avant la Pentecôte, il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins donc, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le jour de Pentecôte, donc les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, qui est descendu sur eux, et ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Et on peut dire que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui va rendre témoignage de quelque chose qu'il a vécu, qu'il a vu, ou qu'il vit, hein, ou qu'il sait. Il y a quelques mois maintenant, peut-être deux mois, j'étais dans une rue derrière, là, et je cherchais à me garer. Et en tournant avec ma voiture, j'accroche une autre voiture. Et vous savez, aujourd'hui, il y a les beaux pare-chocs peints et tout ça. Alors forcément, ça laisse quelque chose. Hein. Et donc, je tourne, j'accroche, je me dis « mince, alors je me gare ». Et puis, je descends. Il y avait un monsieur qui était accoudé comme ça à sa fenêtre et qui regardait. Et puis, la dame arrive justement. elle sortait du travail, elle arrive, « Oh, ma voiture !» Enfin, vous voyez un peu, c'était pas grand-chose. Hein. C'était pas grand-chose. Je dis, bon, ben, on va faire un constat. Alors, on fait un constat. Et puis, à ce moment-là, il y a une autre voiture qui s'en va. Et puis, elle me dit, ah, bougez pas, je vais déplacer ma voiture, je vais la garer, là, il y a une place qui s'en va. Alors, je dis, bon, d'accord. Alors, elle déplace sa voiture et elle change de trottoir. Et à ce moment-là, je vois une longue ligne jaune à l'endroit où elle était garée. Je dis, ah, ben, tiens, on n'avait pas le droit de se garer, là. Ah, ben, on va le signaler quand même, hein, sur le constat. Oh non ! Alors là, pas contente du tout. Hein. Je vais appeler mon mari. Je dis, bon, ben, allez appeler votre mari. Et puis, le monsieur était là. Je lui dis, vous avez tout vu, hein. Il me dit, oui. Vous êtes prêt à témoigner? Oui, oui. Bon, ben voilà. Un témoin, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vu et qui est prêt à dire, ben voilà ce qui était la réalité des choses. Parce qu'elle avait déplacé sa voiture, hein. Donc elle pouvait toujours dire qu'elle était... Enfin, essayer de bidouiller comme ça, hein. Un témoin, voilà, il est prêt à dire ce qu'il a vécu ou il a vu. Et aujourd'hui, donc, jour de Pentecôte, hein, Dieu s'attend à ce que tous ses enfants, eh bien, continuent à donner leur témoignage. Que nous donnions un témoignage de Jésus-Christ, hein, qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Ananias, donc, quand l'apôtre Paul s'est retrouvé devant Ananias, Ananias lui a dit qu'il devait être un témoin. Regardez versets 14 et 15. Ananias a dit à Paul, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Et une chose qui est certaine, c'est qu'un véritable enfant de Dieu, quand on est vraiment un enfant de Dieu, on ne peut pas rester complètement muet sur ce qu'on a vécu avec Jésus-Christ. On est obligé, hein, c'est à l'intérieur comme un feu dévorant, hein, comme dit le prophète, hein, c'est quelque chose qui doit sortir. Si on a fait l'expérience d'une vraie conversion à Jésus-Christ, alors on devient un témoin qui va témoigner des choses qu'il a vues, entendues, et j'ajoute même qu'il a cru, en fait. Alors j'aimerais vous poser ce matin trois questions. Première question, c'est avez-vous un témoignage ? Donc par lequel vous êtes un des témoins de Jésus-Christ. Avez-vous un témoignage ? Deuxième question, est-ce que vous donnez votre témoignage d'une manière effective ? Et puis troisième question, est-ce que vous êtes efficace dans la manière et aux personnes à qui vous donnez votre témoignage ? Première question, avez-vous un témoignage par lequel vous êtes un témoin de Christ ? Qu'est-ce que Paul a fait ici finalement ? Il a simplement donné son témoignage. Il explique aux Juifs, là, il leur dit, voilà comment ça s'est passé, ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est simple, c'est clair, c'est du vécu, c'est dans son cœur. Et notre vécu, eh bien, c'est là. On est capable de redonner notre vécu parce que voilà, ça fait partie de notre vie. Qu'est-ce qu'un témoignage ? Pour qu'un témoignage soit complet, il faut qu'il y ait une explication brève du passé. Il faut qu'il y ait une explication de notre expérience de conversion, finalement, avec Christ. Et puis, il faut qu'il y ait ensuite, voilà, d'une manière même brève, mais expliquer ce que ça a changé pour nous dans notre vie. D'abord, le passé. Ben, c'est ce que Paul fait. Versets 3 à 5. Paul explique quel genre d'homme il était. Un homme de bonne famille, en plus instruit au pied d'un des meilleurs maîtres juifs rabbins de l'époque, donc Gamaliel. Un homme aussi très attaché à la loi, hein, d'une manière exacte. Et c'était important parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient en train de l'écouter ici. Mais aussi, et il le dit, un homme qui était farouchement opposé au christianisme et opposé à la personne de Jésus-Christ. Deuxième étape, mais il y a eu cette expérience, cette rencontre avec le Seigneur. Donc, c'est versets 6 à 10. Qu'est-ce qu'elle est, cette rencontre avec le Seigneur ? Finalement, c'est une prise de conscience. Jésus lui dit sur la route de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Paul répond, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Et à ce moment-là, il répond, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et jusqu'à présent, Saul se disait, mais c'est qu'une secte de fanatiques qui croient dans un Nazaréen, là, né à Bethléem et vivant à Nazareth. Et là, soudain, il prend conscience qu'il s'est trompé. Non, c'est Jésus, Jésus le Messie, en fait, le Christ, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Et aussi, prise de conscience. Mais alors moi, qui suis-je? Un homme violent, un persécuteur, un blasphémateur, moi qui ai dit du mal sur cette personne de Jésus-Christ. Et donc, il y a une prise de conscience à la fois du péché, mais aussi de qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et jusqu'à présent, il ne croyait pas en lui, mais là, c'est la charnière de sa vie. Il croit, il reconnaît, il accepte même comme Jésus-Christ Seigneur de sa vie. Puisqu'il dit, mais que ferai-je, Seigneur? Ou que dois-je faire? Ça veut dire, maintenant, je suis prêt à obéir, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on peut dire, croire en lui, c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi obéir, ça, c'est pas moins essentiel. Et donc, la charnière de la vie de Paul, c'est lorsqu'il prend conscience de son péché, il s'en repent, il croit au Seigneur Jésus et il est prêt à lui obéir. On peut dire c'est l'expérience de la conversion à Jésus-Christ. Et cette conversion, c'est une expérience qui est unique et qui est personnelle. Quelque chose qui est simplement entre nous et le Seigneur. Regardez verset 9, c'est intéressant de voir que ça ne concernait que Saul de Tarse. Verset 9, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Donc Jésus était en train de parler avec Saul, seul. C'était à lui qui s'adressait et à lui seul. Et Saul a dû demander, après cette expérience, bon, il était aveugle là, ébloui par la lumière, mais il a dû dire, mais vous n'avez pas entendu? Et tous les autres ont dit, ben non, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on n'a rien entendu. Parce que, eh bien, ça se passait simplement avec Saul de Tarse, une rencontre personnelle. Et l'expérience de la conversion, c'est une expérience personnelle. Et Dieu, parfois, il peut nous parler, il peut nous parler comme ici ce matin, alors qu'il ne parle pas aux autres, là, dans une chose précise. Et on a le sentiment que, bien vraiment, il est en train de me parler à moi. Et voilà, c'est Dieu qui le fait. Et Saul, ensuite, va expliquer ce qui s'est passé en lui. Il s'est rendu à Jérusalem et il s'est mis à témoigner, à rendre témoignage de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, il était hostile, il était ennemi de Christ et maintenant, boum, un demi-tour complet, il se met à parler de Jésus-Christ. C'était le monde à l'envers pour ceux qui le connaissaient. Et on peut dire, mais quel changement, quel bouleversement, quel demi-tour. Et c'est ça une conversion, c'est un vrai demi-tour. Hein, parce que Jésus-Christ fait une œuvre de transformation dans notre cœur. Et on peut dire une conversion authentique à Jésus-Christ, eh bien, produit un changement aussi authentique, hein, une vraie transformation. Donc, il y a un avant, voilà ce que j'étais, je le sais. Il y a une expérience personnelle unique où on croit en Jésus-Christ, on se repent, on l'accepte dans notre vie. Et puis ensuite, il y a un après, il y a une vraie transformation. Et même, on ne se reconnaît pas soi-même, on se dit, mais mince, je n'étais pas cette personne-là avant. Je faisais ces choses et je n'ai plus envie de les faire. Ou bien je ne faisais pas ça et maintenant j'ai envie de le faire. Un vrai changement. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez un témoignage comme ça? Est-ce que vous avez vécu cette expérience d'une conversion à Jésus-Christ? Alors je pourrais vous demander au hasard un témoignage. Si je dis, et si je peux vous demander au hasard? Non, je ne vais pas vous demander votre témoignage, mais je suis sûr que si je vous demandais, plusieurs ici pourraient dire, ben oui, moi, voilà ce que j'ai vécu, ce que j'étais avant, comment ça s'est passé quand je l'ai rencontré, et puis maintenant le changement que Dieu opère et a opéré en moi. Mais j'aimerais vous donner un témoignage, peut-être vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, c'est celui d'un homme qui s'appelle Aimé Boisson. Donc Aimé Boisson était l'aîné d'une famille chrétienne méthodiste et son père était pasteur méthodiste dans le sud de la France. Mais un jour, il a un petit frère qui est tombé malade et il a prié dans sa jeune foi pour que Dieu guérisse son petit frère et l'enfant est mort. Et à ce moment-là, dans son cœur d'enfant à lui, un peu plus âgé, il a dit non, non merci. Il a été déçu de Dieu d'une certaine manière. Alors, eh bien, Aimé a fait le contraire de ce qu'il fallait. Il est devenu un garçon indiscipliné qui faisait l'école buissonnière, voilà, le contraire de ce qu'il fallait. Il est en pension à Nîmes à un moment, il se fait renvoyer de la pension. On se demande comment il va réussir et peut-être lui aussi se demander comment il allait réussir dans la vie. Et finalement, il arrive à trouver un pharmacien qui lui fait un petit contrat. Il commence à travailler dans une pharmacie. Donc, il a de nouveau avoir, semble-t-il, un semblant de stabilité. Mais quelque temps passe et il se retrouve endetté dans toute la ville où son père exerçait la vocation de pasteur. Endetté dans toute la ville, il finit par fuir, il s'en va à Marseille. Il dit, je vais aller en Afrique, dans le nord de l'Afrique. Il met du temps, il essaie de trouver des petits boulots. Et finalement, il arrive à trouver un navire qui est prêt à l'embaucher pour la traversée. Et il pourrait travailler dans la pharmacie. Alors, comment on appelle ça? La pharmacie de bord, en fait. Donc, où on lui permettrait de travailler là. Et donc, ça payerait en quelque sorte sa traversée. Mais lorsque le bateau part, il rate le départ. Et donc, le navire part en Méditerranée, là. Alors, il réfléchit. Et puis, il savait qu'en fait, il n'allait pas tout droit au nord de l'Afrique. Mais il devait repasser par Gibraltar, monter jusque Bordeaux et après redescendre sur le continent africain. Alors, il se dit, je vais prendre le train, vite, me rendre à Bordeaux et remonter dans ce fameux navire. Et puis, quelques jours se passent avant qu'il ne parte. Et à ce moment-là, il apprend que le bateau a coulé. Et qu'il y a très peu de survivants. Beaucoup sont noyés. Alors là, grosse question. Est-ce que c'est simplement un hasard? Ou bien il y a l'intervention de quelqu'un, d'une mystérieuse volonté. Il s'installe à une terrasse de café et là, il commence à faire le bilan de sa vie et à réfléchir. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que mon avenir? Finalement, ma vie, elle est assez gâchée. Et il y a une jeune fille qui passe de l'Armée du Salut. Et elle essaye de lui vendre un journal, le journal de l'Armée du Salut. Et à ce moment-là, il lui pose cette question et il lui dit, mais mademoiselle, est-ce que vous êtes aussi heureuse que vous en avez l'air? Et puis une discussion s'entame avec elle, elle l'invite à une réunion. Et puis il arrive à cette réunion et là, il entend des versets de la Bible, de la parole de Dieu. Il entend des cantiques qui raniment quelque chose dans son cœur parce qu'il a entendu ça son enfance. Il a baigné dans une église. Il entend des prières. Ça lui rappelle les prières de sa grand-mère qui était comme au ciel avec le Seigneur. Et à la fin, le brigadier Perron, c'est des brigadiers dans l'Armée du Salut, il pose cette question. Il dit « Qui viendra ce soir à celui qui veut sauver ?» Et à ce moment-là, au milieu des personnes de la salle, il y a cette voix qui s'élève, « Moi, moi !» Et là, il donne sa vie à Jésus-Christ. Le lendemain, la première chose qu'il fait, il va envoyer un télégramme à ses parents. Le télégramme était comme ça, « Suis sauvé, stop. Dieu m'a donné son pardon, stop. Demande le vôtre. » Et à ce moment-là, la guichetière, là, qui est en train d'envoyer le télégramme, lui dit d'un air narquois, c'est vous, monsieur? Et alors là, ça remue à l'intérieur, lutte intérieure, là, et il dit, oui, c'est moi, mademoiselle. Première victoire sur la peur du ridicule. Peur du ridicule, dire, oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et finalement, donc Aimé Boisson va devenir un officier de l'Armée du Salut. Après, va avoir tout un ministère pour le Seigneur. Et on voit un homme, ce qu'il était, son passé. Et puis cette rencontre avec le Seigneur, cette conversion avec la repentance, la foi en Jésus-Christ qui est mort pour ses péchés. Et puis enfin, le changement, la transformation, un désir de réconciliation Et puis, un cœur qui veut prendre position pour Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez être l'un de ces témoins? Un des témoins de Jésus? Est-ce que vous avez un témoignage comme ça, que vous pouvez raconter, d'une conversion authentique à la personne de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas pareils. Nos vies sont complètement différentes. Et la vie de Saul n'était pas la même vie qu'aimer Boisson. Et nos vies sont différentes. Mais tous, nous avons besoin de croire et nous avons besoin de nous repentir. Tous, nous avons un passé et Dieu veut nous changer, veut nous transformer par cette expérience. Et ça m'amène à la deuxième question. Si vous avez un témoignage de conversion, est-ce que vous donnez d'une manière effective ce témoignage? Là, l'apôtre Paul est devant cette foule de juifs, pourtant assez remontés contre lui, mais il saisit l'occasion de donner son témoignage. Paul a dit à Timothée, un peu plus loin, il a dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ce qui signifie, quand il dit ça, que nous, enfants de Dieu, nous pouvons avoir un problème à simplement donner notre témoignage. On a une puissance, puisqu'il a dit « Je vous donnerai une puissance » et on l'a reçue. Nous avons une puissance pour être des témoins, pour dire ce que Jésus a fait pour nous. Et il est possible de ne pas, ou ne plus, ou ne presque pas témoigner de Jésus-Christ. Alors c'est la peur, c'est la faiblesse, parfois c'est la lâcheté, parfois c'est la négligence. Et on ne saisit pas une occasion quand elle est là devant nous. Mais quand on perd l'habitude de faire une chose, ou quand on n'a jamais pris l'habitude de faire une chose, on ne la fait jamais. On ne le fait pas, tout simplement. Et c'est ce que Paul voulait justement éviter à Timothée. Il lui dit, n'aie point honte du témoignage, vas-y, ne tombe pas dans une habitude où finalement tu n'ouvres plus jamais la bouche. C'est aussi ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Jésus-Christ a dit à Paul pour l'encourager, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. » Au fond du jardin, on a un cerisier. On a planté un jeune cerisier, il est tout petit. L'année dernière, il a fait des belles fleurs. Non, pardon, l'année dernière, pas de fleurs. Donc, pas de fleurs, pas de cerises. Cette année, il nous a fait bien une vingtaine de fleurs très jolies. Mais sur la quinzaine de fleurs, il y a peut-être eu il y a 4 ou 5 cerises. On s'attend à ce que l'année prochaine, on ait 50 fleurs et peut-être 20 cerises, et que finalement ça aille en s'accentuant, en progressant, en se multipliant. Mais il semble que parfois, pour le chrétien, c'est un processus inverse qui se produit. C'est-à-dire au départ, il se convertit à Jésus-Christ. Et là, ça brûle là, il déborde et hop, il répand et il y a du fruit, il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Il est en train de répandre l'évangile. Et puis petit à petit, on commence à moins témoigner et on s'habitue à ne plus témoigner. Et c'est absolument le contraire d'un cerisier qui pourrait porter beaucoup de fruits. Alors que le Seigneur a dit qu'il nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit, et que notre fruit demeure. Donc la volonté du Seigneur, ce n'est pas que le fruit aille en régressant, mais qu'il aille en multipliant, au contraire. Et qu'en avançant dans la vie chrétienne, dans la foi, dans la maturité, on ne cesse pas de porter du fruit pour lui. Le fruit ne doit pas se raréfier. Je vous pose la question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez donné votre témoignage? Quand est-ce la dernière fois que vous avez partagé l'Évangile d'une manière claire? Quand est-ce la dernière fois que vous avez donné un traité main en main? Alors, répondez pour vous-même. Posez-vous ces questions. Mais si ce n'est pas très récent, alors c'est probable que vous avez perdu ou vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et finalement, cette puissance que nous avons tous reçue, elle est inopérante en nous si on ne témoigne pas. Vous recevrez une puissance afin d'être mes témoins. Et on freine la puissance, on l'empêche d'agir en fait, hein, et de parler au travers de nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pas simplement pour notre sanctification, c'est vrai, c'est pour notre sanctification, mais c'est aussi pour qu'on aille et qu'on soit des témoins. Hein, on peut vivre notre vie chrétienne en cherchant à être toujours plus saint, mais il manque une part importante, le témoignage. C'est un peu comme les coureurs de relais. Vous savez, il se passe le relais, là, enfin le bâton. Et c'est comme ça, finalement. On a reçu le bâton de quelqu'un et on doit passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et vous savez comment s'appelle le bâton ? Le témoin. Hein ? On passe le témoin ou on passe le témoignage, finalement. Voilà, on est en train de passer le témoignage à quelqu'un d'autre qui va aller le redonner à quelqu'un d'autre. Et parfois, vous savez, les bâtons de témoins sont dans nos poches et dans nos sacs. Hein, et on les garde bien, bien secrets et on ne passe plus le témoin. Mais Dieu veut qu'on passe le témoin plus loin. Alors parfois, c'est vrai, on a peut-être donné le témoin au départ, mais on ne le donne plus parce qu'on a eu une mauvaise expérience. On a vécu quelque chose, hein. On n'est pas toujours préparé, il y a des réactions vives, hein, et voilà, des gens qui nous sautent dessus. Hein. Ma fille, là, Ketsia, vient de parler de Jésus à un ami, on va dire un copain de piscine, là, mais c'est un copain qui a, il a trois classes ou quatre classes de plus que lui. Donc, voilà, il a remballé sur cette question de l'évolution, et bon, elle était bien... La pauvre, elle a pris une gifle. Hein. Mais papa, il le dit. Oui, pas simplement papa le dit. Hein. Il y a une vie qu'il faut aussi s'approprier pour soi-même. Hein. Et donc, voilà, moi, je ne parlerai plus de Jésus. Non, non, non. Et parfois, nous, on est comme ça, vous savez. On s'est pris deux, trois gifles. Bon, on ne le dit pas avec la bouche, mais on dit dans le cœur. Hein. C'est bon, j'ai compris. Je ne parlerai plus de Jésus. C'est terrible. C'est terrible. Nous qui sommes adultes hein, et qui pouvons aller au-delà et continuer à servir le Seigneur. Et c'est vrai que des fois, ça peut nous... Mais c'est intéressant justement ce chapitre 22. Pourquoi ? Dieu a prévenu l'apôtre lorsqu'il était la première fois à Jérusalem. On peut le relire. Regardez verset 18. C'était notre premier verset. Verset 18. « Et je vis le Seigneur qui me disait... « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et c'est intéressant là, c'est Dieu qui est en train de prévenir l'apôtre Paul, et il lui dit « C'est inutile là, c'est inutile, c'est pas la peine de continuer. » Les Juifs de Jérusalem, à ce moment-là de l'histoire, ils ne recevront pas ton témoignage. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps. Et il lui dit, verset 21, « Va, je t'enverrai vers les nations. » C'est-à-dire, ça nous apprend quelque chose d'important. C'est que Dieu veut nous envoyer vers les bonnes personnes. Il ne veut pas qu'on perde notre temps avec des personnes qui n'ont rien à faire de l'Évangile. Hein. Il ne veut pas qu'on s'use. Il veut qu'on aille vers les bonnes personnes. Et donc, cette troisième question, est-ce que vous êtes efficace dans le partage de votre témoignage ? Comme je disais, le peu de résultats ou l'hostilité peuvent nous décourager. Et Dieu ne veut pas qu'on se débatte avec des personnes qui ne veulent pas de l'Évangile, mais il veut au contraire nous conduire vers des personnes qui ont soif de l'Évangile. Et c'est possible de la même manière que Paul a été éloigné des Juifs hostiles et conduit finalement vers des païens qui étaient assoiffés. Parce que là, il a vraiment pu répandre l'Évangile et pouf, ça a été comme une traînée de poudre. Et ce dont nous avons sûrement besoin, c'est d'être plus à l'écoute du Seigneur, comme Paul l'était. Et on voit vraiment que le Saint-Esprit est en train de diriger l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Ce n'est pas que Paul se dit, bon, la moisson est grande, c'est vrai, hein, c'est vaste, il y a des païens partout. Bon, alors je vais aller à droite, oh, je vais aller à gauche, et puis je vais aller parler à tort et à travers, comme ça, à tout le monde, dans tous les sens. Non. Le Seigneur est en train de diriger l'apôtre Paul. Il se dit, bon, il réfléchit, hein, je vais aller, je pense, en Bithynie. » Et le Seigneur l'arrête, lui dit non. Et puis, il lui permet d'avoir cette vision du Macédonien qui dit « Passe en Macédoine, secours-nous !» Et il comprend « Ok, Seigneur, tu veux que j'aille voir les Macédoniens. C'est eux qui ont besoin de l'Évangile là maintenant. » Parce qu'eux vont être réceptifs, ils vont écouter. « J'y vais, Seigneur. » Et donc, aller au bon endroit. Au bon endroit. Et on peut dire qu'il y a un temps et un moment pour les uns et les autres. Il ne suffit pas de décider de son propre chef, la direction de Dieu. Il faut qu'on apprenne à écouter et qu'on apprenne à obéir. Ce qui signifie que c'est nécessaire de prier pour cela. Par exemple, on peut prier, « Seigneur, à qui veux-tu que je témoigne dans mon travail ?» Parce qu'on a forcément des personnes qui sont autour de nous. Dire, « Seigneur, mais vers quelle personne tu veux que j'y aille ?» Plutôt que de tirer dans tous les sens et de faire des dégâts et d'aller droit dans le mur. Non, chercher la bonne personne. Et une fois que, on commence à voir les prémices, peut-être qu'une petite conversation qui nous dit, « Oh là, le Seigneur ouvre la porte, là. » Bon, alors commencez à prier. « Seigneur, prépare le cœur de cette personne. Seigneur, vraiment agis dans son cœur et prépare le moment, les circonstances pour que je dise la bonne chose au bon moment. » Et puis, prier pour soi-même. « Seigneur, donne-moi aussi la puissance, donne-moi les mots, donne-moi... » Voilà, on prépare le moment et on cible la bonne personne. Paul n'était pas un missionnaire qui avançait au hasard. Non, il cherchait quelle est la volonté de Dieu, il avançait. Et si on prie que Dieu nous utilise, il va nous conduire aussi et vers les bonnes personnes. Alors viens maintenant... La conclusion de ce message, et on peut dire que si on referme notre Bible et on ne change rien, alors ça ne sert à rien. La parole de Dieu ne sert à rien. Et en nous laissant cette histoire de Paul qui donne son témoignage, et en nous disant aussi « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur », Dieu veut aussi nous parler à nous-mêmes et nous dire « Mais voilà, si tu te rends compte que tu as honte aujourd'hui finalement et que tu n'ouvres pas la bouche pour moi, alors il est peut-être temps de prendre une décision et dire « Seigneur, pardonne-moi et aide-moi maintenant. » Et « Seigneur, montre-moi à qui puis-je témoigner. Donne-moi de l'audace, donne-moi ta grâce. » Et qu'on puisse être un témoin qui donne le témoignage et que ça puisse aller à d'autres et porter du fruit. Et si on n'a pas encore un réel témoignage pour soi-même, une expérience de conversion faite avec le Seigneur, alors c'est possible aussi de se donner à Jésus-Christ ce matin. Et j'aimerais vous donner un dernier témoignage, donc un autre témoignage. C'est celui de François Coillard. Donc il a vécu 1834 à 1904. Il était missionnaire au Lesotho. Et je vais vous lire, donc c'est lui-même qui explique comment il a accepté le Seigneur. Donc je vous lis. Un dimanche matin, le directeur de l'établissement de Glé se mit à nous lire un sermon du révérend Ryle, « Le froment et la paille ». Et à chaque période, c'est-à-dire à chaque ponctuellement dans le sermon, revenait cette question solennelle. « Êtes-vous du froment ou de la paille ?» Et ça revenait. « Êtes-vous du froment ou de la paille ?» Donc le froment, le grain, ce dont on va se servir, et puis la paille, on bat la paille pour faire tomber le froment, puis la paille, elle est brûlée au feu, on n'en fait pas grand-chose. Et à ce moment-là, il dit « La flèche du Seigneur avait pénétré mon cœur. Je ne mangeais plus. Je ne pouvais plus dormir. J'étais au désespoir. Je pleurais. Je priais Dieu. Mais je ne trouvais aucun soulagement. « Tu as beau faire, suggérait le diable. Tu n'es que paille. Jamais Dieu ne pourra pardonner tes péchés. Ton repentir et tes larmes ne sont qu'hypocrisie. » Poussé au désespoir, j'allais trouver le directeur qui me cita les promesses de Dieu. Il fallait croire. Croire. Mais qu'est-ce que croire ? Enfin, la lumière se fit. Croire, c'est accepter et accepté sans réserve. Instantanément, ce fut comme si une voix entendue de moi seul me disait avec force et une suavité indescriptible, « Mon fils, va, en paix, tes péchés te sont pardonnés. » Une paix infinie se répandit dans mon âme. J'aurais voulu chanter la joie. Voilà, expérience de conversion ici, avec le Seigneur. Et ce qu'il a touché, lui, c'était, voilà, que l'on peut être soit du froment, soit de la paille, soit utile, hein, soit inutile. Et il a cru. Il a cru dans son cœur, il a cru ce que Dieu disait. Il a cru comme cette parole, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et donc moi. Peut-être il a lu d'autres paroles. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois, tu seras sauvé. » Donc il suffit de croire maintenant, aujourd'hui, et c'est ça qui devient notre expérience de conversion. C'est ça qui fait qu'on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est là la chose qui fait qu'on est de nouveau, on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et croire, c'est accepter sans réserve ce que Jésus a fait, ce qu'il nous dit. On va s'incliner dans la prière.